Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour, nous allons parler du déluge. C'est tout à fait dans l'air du temps. Là, on est déjà dans le post-déluge, donc... Si j'ai le temps, je vous parlerai aussi déjà un peu de ça. Donc, nous avons vu en effet la semaine dernière que le mythe du déluge, c'est un mythe, je ne vais pas dire universel, mais quand même un mythe qu'on raconte dans beaucoup de régions. Et au niveau de l'histoire biblique, dans l'histoire des origines, c'est un peu le centre. C'est là où les choses tournent, où on fait une césure. On avait vu qu'en Mésopotamie, vous avez les listes des rois qui règnent durant des milliers d'années et qu'après le déluge, ça se calme un peu, ça devient un peu plus tranquille. Et nous avons vu ça aussi avec la Bible, puisque au chapitre 5, vous vous souvenez, nous avons eu des personnes avec des âges assez impressionnants, comme Mathusalem notamment. Et après le déluge, ça va baisser, et puis ça va déjà baisser dans le premier prologue. Parce que souvenez-vous, on a vu au chapitre 6, il y a trois prologues en fait du déluge. Le premier étant celui des fils de Dieu, qui couche avec les filles des hommes. Donc on a commencé déjà à explorer un peu ce récit qui est assez fragmentaire et qui, comme je vous l'ai dit, a un parallèle assez intéressant dans le livre de Hénoc dont je vous ai parlé lorsque nous avons évoqué le personnage de Hénoc au chapitre 5 et dans le livre de Hénoc dans les chapitres 6 et 7 notamment, vous avez une histoire tout à fait similaire, c'est-à-dire une histoire vraiment complète. Alors que dans les récits bibliques, vous avez que deux, trois versets, ils couchent, puis il y a les Néphilim, il y a les Giborim, après on ne sait plus rien. Donc c'est assez curieux. Et donc souvent on a dit c'est un fragment mythologique, donc la version complète vous l'avez chez Hénoc, hein, donc où en effet vous avez au lieu des fils de Dieu, des Bnei HaElohim, qui sont traduits fils de Dieu dans la Septante, mais qui certainement veulent dire des êtres célestes, des êtres divins, hein, comme dans Job. Où il y a une sorte de cour céleste, dont Hénoc, c'est des anges dans les textes grecs et éthiopiens, ou des veilleurs dans les textes araméens, et aussi dans certains passages en grec. Alors ça commence dans un Hénoc assez similaire à ce que nous avons dans la Bible. Il arriva que lorsque les humains se furent multipliés, il leur naquit des filles fraîches et jolies. Les anges, fils du ciel, les regardèrent et les désiraient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons-nous choisir des femmes parmi les humains et engendrons-nous des enfants ?» Donc c'est assez proche de ce que nous avons dans le récit biblique. Hein. Et ils sont menés par un dénommé Shemhaza, donc qui est leur chef et qui dit, il le fait même faire une sorte de serment qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est une sorte évidemment de rébellion dans les livres de Hénoc. Et le plan des anges rebelles se réalise. Les femmes conçurent et enfantèrent des géants hauts de 3000 coudées. Ça fait quand même pas mal, à peu près 1500 mètres, qui dévoraient tout le fruit du labeur des hommes, si bien que les hommes ne purent plus les nourrir. Les géants se liguèrent contre eux pour les tuer et dévorèrent les hommes. Ils se mirent à pêcher contre toutes les bêtes, oiseaux, quadrupèdes, reptiles, poissons, et à se dévorer entre eux. Ils en burent le sang. Alors donc ça va provoquer une plainte des humains envers de Dieu, de Très-Haut, qui va être en effet transmis par l'intercession de quatre archanges. Vous avez aussi une liste d'archanges dans le livre de Hénoc. Et puis Dieu va prendre des mesures et il va, par exemple, envoyer Uriel chez Noé pour lui annoncer le déluge. Donc, vous voyez, dans l'histoire d'Enoch, c'est aussi compris comme étant, en effet, une sorte de prologue au déluge. Une des raisons du déluge, c'est ce mélange entre les humains et les divins. Et puis, Raphaël est chargé d'enchaîner Azaël, c'est un autre démon, et l'enfermer. Gabriel est envoyé auprès des géants qu'il va faire disparaître en les incitant à s'entretuer. Et finalement, Michael reçoit l'ordre d'enchaîner Shemehaza et ses compagnons pendant 70 générations. Et après le jugement, tout ira bien. La terre, dit Dieu, sera purifiée de toute souillure, de toute impureté, de toute fureur, de tout châtiment. Je ne leur enverrai plus de déluge dans toutes les générations du monde. Alors la vérité et la paix s'associeront pour tous les jours du monde. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le personnage de Enoch, dont nous n'allons pas parler maintenant, mais vous avez vu, je vous ai parlé de son voyage céleste où il va en effet les différents caveaux où se trouvent les différents esprits. Donc ce qui nous intéresse maintenant, comment il faut comprendre en fait ce récit dans le livre de Enoch et le petit fragment biblique. Alors souvent on avait dit, et si vous regardez, je ne vais pas vous le relire, mais si vous regardez sur le diapo, vous voyez que parfois il y a vraiment des parallèles littéraires, hein, des parallèles littéraires. Donc il y a des exégètes, et c'est la majorité, qui disent en fait cette histoire, c'est une sorte de midrash. L'histoire de Enoch aurait été développée à partir en fait ce petit texte de la Genèse. Ça, c'est l'idée majoritaire. Mais est-ce que c'est très logique? Parce que en fait, en Genèse 6:1-3, ou 6:1-4, on semble plutôt présupposer auprès des destinataires qu'ils connaissent l'histoire. Hein? Parce qu'autrement, c'est tellement fragmentaire qu'il faut peut-être plutôt penser, avec Philip Davis et d'autres, qu'on a dans la Genèse une version tronquée d'un mythe plus ancien, plus complet, qu'il était connu à la fois par l'auteur de Genèse 6:1-4 et aussi l'auteur de Enoch. Donc il y avait une sorte de source commune auquel en fait les deux textes se réfèrent, et ça me semble en effet logique. On peut aussi dire en effet que ce qu'on trouve dans l'histoire du livre de Enoch, qu'il y a en effet une conception différente quant au mal. Ça, c'est Gabriele Bottagini qui dit en fait qu'il y a une sorte de courant enochéen et un courant pharisien dans le judaïsme naissant. Et ce que nous avons en fait dans le livre de Enoch, c'est le mal est d'origine céleste. C'est la rébellion en fait des anges. Hein. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est en effet que le livre de Enoch, dont on sait maintenant la popularité, je vous ai parlé des fragments à Qumran et sa réception, donc on sait que c'était beaucoup plus populaire ce qu'on pensait avant. Donc avant, on pensait que c'était un truc récent du Moyen-Âge et puis que ça intéressait peu de monde. Mais il faut imaginer quand même que ces traditions autour de Enoch étaient très populaires dans le judaïsme naissant. Et qu'à un moment, on les a un peu censurés ou oubliés, peut-être sous pression du Coran pharisien, donc qui, évidemment, avait comme figure centrale la figure de Moïse. Donc, on pourrait même imaginer un peu une sorte de compétition, Enoch contre Moïse. Évidemment, c'est Moïse qui l'a gagné, la Torah qui l'a gagné. Et donc, du coup, on peut se poser la question si Genèse 6:1-4 n'est pas une sorte de concession, en fait, une petite concession à ces traditions enochiques qui est peut-être provoquée, vous vous souvenez, par la mention, en fait, de Enoch au chapitre 5. Donc, du coup, ça peut être, en effet, influencé l'ajout de ces quelques lignes qui ont été retravaillées, puisque nous avons vu que le 120 ans sur lequel je vais revenir un petit moment n'avait rien à voir à l'origine avec ce récit. Donc, les fils de Dieu, ça gênait le judaïsme, mais aussi le christianisme. On a dit ça peut pas être des êtres célestes. Donc dans le judaïsme, on a dit c'est les fils des hommes avec une puissance exceptionnelle. Et il y a une interprétation chrétienne qui dit que c'est les descendants de Seth, vous vous souvenez de la généalogie, les descendants de Seth qui auraient couché avec la descendance féminine, avec les filles de Caïn, pour en effet provoquer une race qui aurait elle-même provoqué le déluge. Mais si vous lisez attentivement le texte, il n'y a pas besoin, et je vous ai montré tous les parallèles dans le monde grec, mais aussi dans le monde mésopotamien, des mélanges entre les dieux et les humains, donc c'est clair. Clairement un texte mythologique, il ne faut pas se fier à ces interprétations. Mais ces interprétations, c'est toujours intéressant parce que ça montre en effet où on est gêné, où il y a quelque chose d'exceptionnel et puis on essaye justement de faire un peu une apologie ou de, comment dire, de réinterpréter les choses. Alors, donc vous vous souvenez qu'un rédacteur a intercalé cette décision de Yahvé qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui ne se trouve pas dans l'histoire de Enoch, à savoir que mon souffle ne dirigea pas toujours l'être humain, car lui aussi est cher, ses jours seront donc de 120 ans. Alors évidemment, ça fait un contraste avec les 969 ans de Mathusalem, mais ça renvoie surtout à Deutéronome 34. Parce qu'en effet, vous vous souvenez que Moïse, en fait, dans la Torah, dans le Pentateuque, Moïse est le seul à mourir de 120 ans. Donc il y a une sorte d'encadrement autour de la Torah. Au chapitre 6 de la Genèse, on annonce les 120 ans comme date limite des êtres humains. Et c'est Moïse qui accomplit, en certaine manière, cette décision divine. Donc vous pouvez me dire, mais il y a quand même, entre cette décision et Moïse, il y a les patriarches. Les patriarches vivent plus longtemps. Alors, soit c'est un rédacteur qui n'était pas très attentif, ou alors on s'était dit, mais les patriarches, parce qu'évidemment c'est une tradition plus ancienne, les patriarches, ça fait encore partie un peu de l'espace mythique, et puis on passe à l'espace plus historique avec Moïse et avec l'Exode. Donc c'est tout à fait une possibilité. On trouve les 120 ans aussi déjà chez les Sumériens, dans l'épopée Enlil et Namsitara, où on dit en effet 120 ans, c'est la limite de la vie des humains. À partir de maintenant, jusqu'à toujours, ce sera 120 ans. Hein? Donc ce n'est pas inventé par l'auteur de Genèse 6, mais ce qu'il veut faire, c'est évidemment faire un lien entre cette décision et les 120 ans de Moïse. D'ailleurs, je vous ai dit, parfois c'est intéressant de regarder un tout petit peu la guématrie. Vous avez ce mot très bizarre, souvenez, Beshagam, vous avez le Bet, le Shin et le Gam, donc cette combinaison qui est très typique dans les textes récents comme Kohelet, et qui n'existe qu'ici. Alors du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a mis Beshagam ici? Ben, là aussi, comme par hasard, ce mot a la même valeur numérique que le nom de Moïse. Donc, du coup, voilà. Je ne sais jamais avec la guématria, il faut être prudent. Hein, on ne faut pas chercher des chiffres secrets partout. Mais là, c'est peut-être quand même plus qu'un simple hasard, et d'autant plus que c'est un mot qui n'existe qu'ici. Hein. Donc, du coup, c'est peut-être voulu qu'on l'a mis pour déjà faire allusion au fait que ce sera en effet Moïse qui mourra à cet âge-là. Alors ensuite, on a à la fin les Néphilim et les Giborim. Donc les Néphilim, qu'est-ce que c'est? Probablement c'est des géants, puisqu'on le retrouve en effet dans l'histoire des espions. Vous vous souvenez que Moïse envoie des espions explorer le pays. Ils reviennent. Et il dit, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu les Néphilim, les Anakites, qui sont d'entre les Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, comme des criquets. Et c'est que nous étions aussi à leurs yeux. Donc là, on sait très bien que les Néphilim, c'est en quelque sorte des géants. Et donc, je pense qu'on a en effet, ajouter ces Néphilim pour préparer la présence de ce personnage dans le livre des Nombres, et sans doute on a ajouté après, et encore après cela, parce qu'on dit c'était les Néphilim, mais si on continue à lire, on va les retrouver au moment justement où Moïse envoie ses espions. Donc du coup, un glossateur a dit et encore après cela. Les Giborim, un Gibor, c'est un homme fort, donc qui n'a pas de connotation négative en soi. Alors, est-ce que c'est lui qui a ajouté Néphilim, géant? Est-ce qu'il voulait identifier les Néphilim et les Géborim? Ça, c'est la Septante qui l'a fait, la traduction grecque, parce qu'ils ont traduit les deux par gigantes. Ou alors, on dit simplement, il faut expliquer pourquoi au nombre 13, on a tout d'un coup les Néphilim. Ça, c'est une autre possibilité. Et les Giborim, qu'est-ce que c'est les Giborim? C'est les héros. Et donc, c'est peut-être une tentative, surtout si c'est un texte récent, de traduire le mot grec pour héros, qui sont souvent des demi-dieux, en disant, c'est les héros du temps avant le déluge, avec l'idée, évidemment, que lorsque vient le déluge, ils vont disparaître. Alors pour les Néphilim, on était plus embêtés parce que on dit même après le déluge, il y a encore des Néphilim. Mais ça devient un peu compliqué parce que le déluge est censé le tout effacer. Mais bon, on ne peut pas toujours être si logique que ça. Donc on va aller retrouver ces Néphilim dans les livres des Nombres. Voilà, ça c'est le premier prologue, sans doute le prologue le plus récent des trois prologues qui expliquent l'origine du déluge. Après, dans les versets 5 à 8, on a un deuxième prologue où Yahvé vit que grand était le mal de l'être humain sur la terre et toute conception des pensées de son cœur était seulement mal tous les jours. Donc ça, c'est certainement le texte non sacerdotal. Ce que je vous ai mis en italique, c'est des terminologies qui reviennent plutôt dans les textes de création sacerdotale, et ça veut dire qu'au moment où on a combiné les deux récits, on a essayé en fait de réviser de sorte que ça sonne un peu plus comme une unité. Pourquoi est-ce qu'on a dû... Alors si on part de l'idée qu'il y a deux récits du déluge, un récit sacerdotal qu'on peut reconstruire, que je vous montrerai tout de suite, et un récit non sacerdotal. Donc comme un peu les deux récits de création en Genèse 1 et en Genèse 2 et 3. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu mettre les deux récits l'un après l'autre? Ça parle de la même chose et le déluge est censé d'avoir lieu une seule fois. Alors pour la création, c'est plus simple parce que vous pouvez dire en Genèse 1, c'est surtout la création de l'univers. Et puis en Genèse 2, c'est la création de l'espèce humaine, bien qu'il y a quelques parallèles quand même. Mais bon, c'est plus facile. Alors pour les déluges, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs la même chose pour la traversée de la mer. Connaissez alors la mer qui soit s'ouvre au milieu ou un vent qui repousse les eaux, c'est aussi mélangé dans un seul récit. Parce que ça ne peut pas se faire deux fois à la suite. Donc quand il y a des événements uniques, les rédacteurs bibliques sont un peu plus embêtés parce qu'il faut qu'ils arrivent à combiner leurs deux récits. Mais ils ne veulent peut-être pas tout répéter. C'est pour cela... on a le récit sacerdotal de manière assez cohérente, alors que dans les récits non sacerdotales, on a des fragments. On a ce fragment ici qui, en fait, dit que l'origine du déluge, c'est le mal de l'être humain sur la terre. Donc, si vous regardez le verset 5, « Yahvé vit, grand était le mal de l'être humain sur la terre, et... » Toutes ses pensées de son cœur étaient mal tous les jours. Et du coup, Yahvé regrette, au verset 6, d'avoir fait l'être humain sur la terre. Et son cœur, donc le cœur de Yahvé. Donc vous vous souvenez aussi dans le texte Nompé, on parle de Yahvé de manière assez anthropomorphe. Donc il a mal au cœur aussi, Yahvé, d'avoir fait les hommes. Et puis c'est de nouveau un Yahvé qui fait des choses et après, est-ce que j'ai bien fait ? C'était déjà la question qu'il s'était posée au moment du récit de la création. Là aussi, Est-ce que j'ai bien fait de faire les humains ? Donc, du coup, il dit, je vais effacer au verset 7, je vais effacer l'être humain de la surface du sol, donc Alpnei Ha'adama, donc ça renvoie évidemment aussi au récit de Genèse 2 et 3, et je regrette, donc deux fois on retrouve la racine Nacham au Niphal, je regrette de l'avoir fait. Alors, si vous vous souvenez, pourquoi il y a les déluges dans les récits mésopotamiens ? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce que les déluges viennent ? Oui, vaguement. Alors, dans Atrahasis, on a une réponse, parce que les hommes deviennent trop nombreux et ils font trop de bruit. Et les dieux sont indisposés. Il faut arrêter tout ça. Alors que dans les récits bibliques, dans les deux versions, on donne quand même une certaine faute morale. On dit chez Nompé, ils étaient mal. Bon, on précise pas vraiment, mais si on lit en fait ce mal à la suite des fils de Dieu, des fils des hommes, on peut dire qu'il y a peut-être un lien entre ça. Mais à l'origine, c'était pas ça. C'est une sorte de constante anthropologique, comme on le trouve aussi chez Coëlette, qui dit Ra'at Adama Rabba Alav, donc le mal de l'homme pèse lourd sur lui. Hein? Donc une idée que, ça nous plaît peut-être pas trop, mais l'idée que c'est, on est plutôt tourné vers le mal que tourné vers le bien. Alors réfléchissez si c'est vrai ou pas. Mais... Ça c'est l'idée au moins donc de l'auteur hein, de ce texte. Et donc, le cœur de l'homme, donc vous savez que dans la pensée sémitique, le cœur, c'est là où se passe tout. Hein, donc, c'est le siège des pensées intimes et aussi de la volonté. Et tous les jours, dit-on, le cœur de l'homme penche vers le mal. Et Dieu regrette d'avoir fait l'être humain. Alors, est-ce que Dieu peut regretter quelque chose ? Là aussi, les théologiens n'étaient pas tout à fait convaincus. Philon d'Alexandrie fait tout un traité sur Dieu pour dire Dieu ne peut pas regretter. Parce que Dieu sait ce qu'il fait et Dieu prévoit tout. Hein ? Rashi, grand commentateur juif, va dire Dieu, en fait, parce que la racine peut aussi vouloir dire se consoler, et il traduit « Dieu se consola de ce qu'il avait créé l'être humain sur la terre et non pas sur le ciel ». Bon, c'est aussi assez loin de ce que dit le texte. Mais si vous regardez les textes bibliques, Dieu change d'avis assez souvent quand même. Mais parfois en bien. Je rappelle l'histoire de Jonas. Jonas qui va annoncer la destruction de Ninive. Et tout d'un coup, le roi, les humains, même les animaux, tout le monde fait de la pénitence. Et Dieu regrette le mal qu'il voulait faire venir sur Ninive, et il ne fit pas. Et c'est Jonas qui est mécontent. Parce que Jonas ne veut pas que Dieu change d'avis. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, puisque Dieu change d'avis, il aura l'air d'être un faux prophète. Puisqu'il a annoncé la destruction, et tout d'un coup, la destruction ne vient pas. Donc ça, c'est une idée qu'on trouve souvent dans la littérature prophétique. Par exemple, en Jérémie 18, « Si cette nation renonce au mal que provoque ma menace, alors moi, je regrette le malheur que j'avais décidé de lui faire. » Donc Dieu peut tout à fait changer d'avis. Ici, il change d'avis pour le mal. Souvent, dans le discours prophétique, il change d'avis pour éviter le jugement. Hein ? Et une fois que Dieu regrette, on présente Noé. Quant à Noé, il avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. C'est assez laconique. C'est assez laconique, il avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Si vous prenez que le texte Nompé, Noé n'a aucun mérite. On ne peut même pas dire qu'il est mieux que les autres. Ça, c'est après le récit sacerdotal qui va le dire. Hein ? Mais là, on dit simplement qu'il avait trouvé grâce aux cieux de Yahvé. Hein, donc, c'est une expression fréquente qui, évidemment, suppose une relation d'un supérieur à un inférieur. Donc, le supérieur regarde, hein, celui-là, ok, c'est bon, je le prends. Hein, et c'est ça. Donc, on ne peut même pas dire que dans les récits, là, il y a une qualité spécifique de Noé qui fait qu'il est élu pour échapper au déluge. Il a juste trouvé grâce aux yeux, avec évidemment une sorte d'anagramme entre Noach, Nun et Chet, et grâce, Chet et Nun. Donc c'est sans doute aussi voulu. Et comme je vous l'ai déjà dit, je le rappelle, la grande différence évidemment entre les deux récits bibliques et les récits mésopotamiens du déluge, c'est que Yahvé va jouer tous les rôles. Hein? Parce que dans les récits mésopotamiens, c'est Enlil, le chef des dieux, enfin l'assemblée des dieux, qui va décider qu'il y aura le déluge. Et il y a Enki, ou Ea, qui va, en secret, avertir Atrahasis ou Utnapishtim qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'il faut vite se construire un bateau. Hein? Et évidemment, c'est un peu l'ambiguïté du récit biblique, puisque Yahvé va jouer les deux rôles. Il va dire « je vais faire venir le déluge », ce qui n'est pas hyper logique non plus, et « je vais quand même avertir Noé ». Bon, alors dans le récit sacerdotal qui vient après, on a quand même un peu expliqué. Ça commence au verset 9 avec « voici les Toldot, voici l'histoire, les engendrements de Noé, on retrouve ses fils », donc ça reprend ce que nous avons vu au chapitre 5. Et là, on apprend en effet que Noé est un homme juste et intègre avec la divinité « Et ha-Elohim hitalech Noach ». Donc avec la divinité, il marcha, Noah. Comme Enoch, par ailleurs. Hein? Donc là, on voit très bien, il y a une autre perspective. Noé est choisi parce qu'il a des qualités morales et théologiques. Il marche avec Dieu et il est tzaddik. Tzaddik, qui est une sorte de comportement de fidélité vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis d'un ordre établi. Et dans le livre d'Ézéchiel, d'ailleurs, Noé compte parmi les trois justes exemplaires. Vous avez donc dans cet oracle, si, même si ces trois hommes, Noé, Daniel, qui est plutôt le Daniel ougaritique, dont s'inspire peut-être plus tard le Daniel biblique, et Job se trouvaient parmi les habitants, ceux-ci sauveront leur vie par leur tzedaka, par leur justice, mais pas la vie des autres. Et c'est un peu aussi ce qui se passe dans le déluge. Noé sauve sa vie avec les siens, et les autres vont périr. Donc il est tzaddik et tamim, donc ils peuvent avoir aussi des connotations cultuelles. Les victimes pour les sacrifices, il faut qu'ils soient tamim, purs, sans défaut. Hein. Et ici, c'est évidemment un comportement sans défaut qu'on va en effet retrouver en Genèse 17, lorsque Yahvé s'adresse à Abraham. Là, nous avons vu dans le texte « non paix », c'était le mal qui était la raison du déluge. Et ici, on trouve la violence et la corruption. Mais la terre était corrompue aux yeux de la divinité, à Elohim. La terre s'était remplie de violence, Dieu vit la terre et elle était corrompue. Là, évidemment, si vous vous mettez dans le contexte paix, pensez au premier récit de la création. Dieu vit, et quoi ? Quand Dieu vit en Genèse 1, Dieu vit et c'était bon. Hein ? Dans le récit de la création, chaque fois que Dieu vit, c'était bon. Et là, Dieu vit et c'est corrompu. Donc il y a déjà quelque chose qui se passait. Hein ? En Genèse 1, 28, Dieu dit aux animaux et aux humains de remplir la terre. Et ici, on trouve la terre était remplie, mais de violence. Donc, c'est évidemment un renvoi au premier chapitre, mais évidemment en opposition. Donc c'était plus très bon, tout est corrompu, et il y a remplissage, mais remplissage avec de la violence. Hein. Et donc pour P, c'est la faute de toute chair, Kolbassar. Hein. Toute chair était corrompue. Hein. Donc du coup, Dieu annonce la fin, venue est la fin. Et ça, si vous connaissez un peu la littérature prophétique, on le retrouve très clairement dans les annonces de jugement des prophètes. Amos dit « Venue est la fin sur mon peuple »,« Ketzba hein, »,« La fin est venue », ou encore plus clairement, Ézéchiel 7, c'est la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays, puisque le pays est rempli de jugements sanguinaires et la ville est pleine de violence. Donc vous retrouvez le même champ sémantique, hein, et sans doute on s'est inspiré ici dans, de ces traditions prophétiques annoncer la fin. Après, il y a toujours la question, est-ce que la fin annoncée est une fin absolue ou est-ce qu'il y a quelque chose après la fin? Et c'est un peu comme dans le déluge, on annonce la fin, mais on va voir quand même que c'est une césure, première création qui va être modifiée, mais ce n'est pas la fin total, comme peut-être dans ces annonces. Et après vient quelques lignes très compliquées. Je ne vais pas vous faire tous les détails des hapax, des mots compliqués. C'est l'ordre de se construire l'arche. Donc je vous ai dit, c'est sans doute seulement le récit sacerdotal qui était conservé. On ne sait pas ce qui était dans le récit non sacerdotal. Donc fais-toi une arche. Avec des compartiments, tu feras l'arche, tu la couvriras d'un enduit. Donc je vous dis, c'est une traduction approximative, parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas tout à fait. Voici comment tu la feras. 300 coudées est la longueur de l'arche, 300 coudées, 50 sa largeur, 30 coudées à sa hauteur. Et après, on ne comprend pas très bien, tu feras à l'arche un toit d'une coudée, disposé en haut, tu placeras l'ouverture de l'arche sur le côté, tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Bon, il y a trois étages, ça on sait, et puis il y a des dimensions dont je reviendrai là-dessus, mais peut-être un mot sur arche. Pourquoi on parle d'arche? Bon, ça, on le doit à la Vulgate, qui a traduit par « arca ». Mais elle a traduit deux mots différents par arca. En fait, c'est l'arche de Noé et l'arche de Moïse, c'est-à-dire en fait la petite boîte dans laquelle Moïse a été mis par sa mère. Hein. Donc le mot hébreu, c'est Théba, et qui peut être emprunté de l'égyptien, soit de Sabbat, qui veut dire sanctuaire ou sarcophage, ou plus probablement de Tabata ou Tepete. Donc vous savez, les égyptologues ne savent pas comment prononcer, donc avec E ou A, mais peu importe. Mais les consonnes sont similaires. Ce n'est pas emprunté de l'acadien, parce qu'en acadien, c'est Elépou. Hein. Donc là, il y a ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi est-ce qu'on a pris un terme égyptien? Alors que tout le coloris est mésopotamien. Et les Égyptiens, je vous ai dit, ils n'ont pas vraiment de déluge. Pourquoi on prend là tout un coup un terme égyptien? Bon, là, c'est encore un autre sujet pour des recherches. C'est peut-être lié aussi au fait que, comme je vous le dirai tout de suite, l'arche, la construction de l'arche, rappelle un peu la construction du sanctuaire dans le désert, du tabernacle. Et là, il y a beaucoup de mots d'emprunt égyptien. Alors peut-être c'est lié à ça. Donc, après les mesures de l'arche, là, vous avez une reconstruction de l'arche. Il y a des milieux, comment dire, évangéliques, fondamentalistes, qui ont beaucoup montré que tout est possible. Et donc, ils ont reconstruit l'arche pour montrer que ça peut, en effet, accueillir tous les animaux de la terre. Donc, je ne sais pas comment ils font avec les insectes, machin. Bon, peu importe, je ne vais, pas introduire toutes ces polémiques-là. Mais c'est utile parce que ça vous donne une idée, voilà, à quoi, si on prend un peu la description biblique, à quoi ressemble l'arche. Donc, ça dépend si on met la coudée à 45 cm ou si on prend la coudée égyptienne à 52. Donc, ça peut changer un peu, mais grosso modo, on est entre 140 et 150 mètres de largeur, 17 de longueur, pardon, 17 de largeur et 13 ou 15 de hauteur. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, en fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de reconstruire l'arche. C'est plutôt, en effet, une sorte de temple navigant. Parce que quand on regarde comment construire le sanctuaire dans le désert, bah, ça ressemble un peu aussi, avec les descriptions, à une sorte d'arche, mais qui peut évidemment se transporter sur la terre sèche. Hein. Et puis, ce qui est intéressant aussi, lorsque Salomon construit une partie de son palais, on a là des longueurs de 100 coudées, 50 coudées, 30 coudées, qui correspondent assez à l'arche, en fait. Hein. Donc, je pense qu'on a quand même fait un lien entre l'arche ou la boîte, le coffre, il y a des traductions qui traduisent par coffre ou par boîte, et un sanctuaire. D'ailleurs, c'est très clair aussi dans la description qu'on trouve de l'arche dans Gilgamesh, parce que là, l'arche, elle est de 60 par 60 par 60 mètres, et elle possède 7 étages. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une sorte de ziggourat. Une sorte de ziggourat qui se... Voilà, c'est difficile d'imaginer comment la ziggourat va se promener sur les eaux. Mais c'est une manière de, voilà, de continuer de garantir une possibilité de relation entre les humains et les dieux. Hein. Et donc, si vous regardez cette représentation que j'aime beaucoup de l'arche, même s'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a dans la description... Ils ont senti quelque chose de cette fonction. Donc, les arches, on a essayé de les reconstruire. Si vous allez à Hong Kong, vous pouvez loger dans l'arche, parce qu'il y a un hôtel qui s'appelle Noah's Ark. Je vous le conseille, c'est un très bon hôtel. Je suis logé là-bas, c'est très bien. Mais vous ne sentez pas vraiment dans l'arche, en fait. Bon. Alors, donc, le récit sacerdotal continue. Et Dieu annonce donc « Je vais faire venir sur la terre le déluge pour anéantir toute chair qui en a elle le souffle de vie sous le ciel, mais j'établirai mon alliance avec toi. » Donc là, il y a l'opposition entre toute chair et l'alliance qui va être établie avec Noé. L'auteur sacerdotal utilise un terme qui devient une sorte de terme technique pour le déluge, Maboul, qu'on ne trouve pas dans les récits non sacerdotales, hein, et qui vient peut-être, ou qu'on peut mettre en rapport avec un mot Nevel, qui signifie une sorte de jarre à provision, hein, mais peut-être une jarre avec laquelle on verse de l'eau, peut-être c'est la racine Balal, humidifier, mélanger, confondre, ce qu'on trouve après en Genèse 11 quand on explique le nom de Babel. Donc là aussi, c'est un mot qui n'a rien à voir avec le sumérien ou l'acadien, parce qu'en sumérien acadien, on a Amaru ou Aboubou, qui veut dire d'abord un ouragan violent, et Pafa, la déesse Ishtar ou Inanna, elle est décrite comme un Amaru. Donc comme un... Elle est très violente, Ishtar, Inanna, donc elle est en sorte de cet ouragan. Et ensuite, ça devient en fait le terme pour parler du déluge. Alors, pour faire l'opposition avec l'extermination par le déluge de toute l'humanité et de tout le monde animal, il y a cette alliance que Dieu conclut avec Noé, qui sera reprise à la suite du déluge, hein, et qui est une sorte de manière pour payer de structurer aussi les différentes étapes de son histoire, puisque ensuite, la prochaine alliance dont on va parler, c'est en Genèse 17, l'alliance avec Abraham. Hein, Abraham, dont le signe va être la circoncision, alors que pour, vous le savez sans doute, pour l'alliance avec Noé, à savoir avec toute l'humanité, le signe, ça va être au chapitre 9, l'arc-en-ciel. Exactement, on reviendra là-dessus après les vacances. Donc, ensuite, on va faire entrer tout le monde animal. Noé va prendre de la nourriture, qui, pour paix, est encore une nourriture, non pas végane, mais végétarienne, disons, et donc reste encore dans l'idée que la création est végétarienne. ce qui va changer justement après le déluge. Noé fait exactement comme Yahvé lui a dit. Et ça, c'est exactement aussi ce qu'on va retrouver lorsque Moïse construit le sanctuaire, Vayas, Kaasher, Tziva, Adonai. Il fait comme Dieu l'avait demandé, ordonné. Donc on a, comme je vous ai dit, ces trois prologues, et après on a les deux récits du déluge que je vais vous présenter maintenant, et à la fin, nous avons deux épilogues, donc une avec le sacrifice, et une autre avec la reprise de l'alliance dont je vous ai parlé. Donc, comme je vous ai dit, on a les deux récits, on peut très bien les distinguer, et on peut clairement, je vous le montrerai, je ne vais peut-être pas tout vous lire, on peut très bien reconstruire un récit de manière entière, c'est le récit sacerdotal, alors que le récit, que les textes non P, on n'a que des fragments. Alors maintenant, logiquement, on a plusieurs possibilités. On peut dire que les textes qui ne sont pas sacerdotales, on les a ajoutés après coup pour préciser telle ou telle chose. Ou on peut dire que c'est des fragments d'un autre récit qu'on n'a pas conservé de manière entière. Vous voyez les possibilités. Alors, comment décider ? On peut dire c'est l'un et l'autre, c'est peut-être un peu ça. Mais on a parfois dans les textes non P des renvois à des choses qu'un rédacteur n'aurait peut-être pas tellement dit. Par exemple, on dit au chapitre 8, au verset 6, que Noé va ouvrir une chalon, une fenêtre. Mais ce terme-là ne se trouve pas dans l'ordre que je vous ai traduit tout à l'heure de construire l'arche. Donc on peut s'imaginer, c'est peut-être une autre terminologie d'un autre récit de construction. Pourquoi est-ce qu'un rédacteur aurait rajouté ça ? Ce n'est pas totalement concluant, mais c'est quand même un argument. Et puis aussi, je vais vous le montrer, on a deux chronologies assez différentes sur la durée du déluge. Pourquoi est-ce qu'un rédacteur aura mis la grande confusion en rajoutant une chronologie qui est totalement différente de la chronologie sacerdotale ? Donc c'est quand même plus simple si vous avez deux récits qu'on essaye de mettre ensemble. Bon, au moins, c'est mon idée. Pouvons en avoir d'autres, mais j'imagine quand même qu'on peut plutôt imaginer ces deux récits et après, évidemment, des rédacteurs qui les mettent ensemble, qui essayent de rajouter encore des choses et qui essayent, et je vais vous donner des exemples, qui essayent ensuite, en fait, de les harmoniser. Ça, c'est très important. Alors, le récit sacerdotal, si je vous le lis, c'est peut-être un peu long, mais vous pouvez ensuite vérifier sur le site du collège. Ça, c'est un récit qui marche parfaitement. Il ne manque rien. Vous avez un récit très clair qui commence en fait par Noé entra dans l'arche et qui se termine par Noé sorti avec toute sa famille. Donc, et entre-temps, vous avez la description de l'entrée dans l'arche, la venue du déluge, Dieu qui tout d'un coup arrête le déluge, on va voir pourquoi, et les eaux qui retournent. Et on a aussi tout un système de datation, parce qu'on apprend donc Noé entre à l'arche l'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17 du mois. Le 17 de 600. Commence le déluge. Et le déluge, en fait, il y a plusieurs manières de fixer la fin, mais la dernière annonce, disons la dernière indication chronologique, je reviendrai là-dessus, c'est le deuxième mois, le 27e jour de l'an 601. Donc, ça aurait duré un an et 10 jours. Bon, on verra ça tout de suite. Alors, pour P, en fait, on a cette chronologie complexe. Donc, en fait, le déluge proprement dit dure 5 mois. Mais après, il y a plein de choses qui font qu'il ne peut sortir qu'après 1 an et 10 jours. Avec un vocabulaire qui rappelle clairement le récit de Genèse 1, même énumération des animaux. Et ce qui change par rapport au récit non-paix et au récit mésopotamien, il y a une chose qui manque chez P, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice. Ça a toujours un peu embêté les commentateurs, parce qu'en fait, les sacerdotaux, les prêtres, ils aiment les sacrifices. Pourquoi ils ne racontent pas de sacrifice ici ? Parce que, en fait, si vous prenez un peu la logique de ce qu'on appelle le document sacerdotal qui va jusqu'au Lévitique, en fait, le sacrifice, qui est le vrai sacrifice, va être installé seulement par des annonces que Dieu donne à Moïse sur le Sinaï et qui se réalisent pour la première fois au début du livre du Lévitique. C'est probablement pour cela qu'on n'a pas le sacrifice sacerdotal ici. Alors, ça, c'était le texte P. Maintenant, entre le texte P et non P, disons le texte P, on a inséré des fragments du texte non P, où vous avez au début du chapitre 7, il avait dit à Moïse, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Retenez ça. Car c'est toi que j'ai vu juste devant moi au sein de cette génération. De tout le bétail pur, prends 2 x 7, un mâle et une femelle, littéralement un homme et sa femme, ish ve ishto, c'est bizarre, du bétail qui n'est pas pur, un mâle et sa femelle. Aussi du volatile du ciel, et encore 7 jours, en effet, je vais faire pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et Noé fit selon ce qu'il y avait lui a ordonné. Donc ça, c'est un texte complexe, je vous montre tout de suite. Mais là, tout à coup, qu'est-ce qu'on trouve ? Mais vous avez tout de suite vu la différence par rapport au texte sacerdotal. Tout d'un coup, on va faire une distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Alors, les animaux impurs, ils ont juste une paire, un couple. Les animaux purs, ils ont 7. Pourquoi ? Après, il y a le sacrifice. Il faut bien qu'ils peuvent à la fois survivre et être sacrifiés. Donc, il vaut mieux d'être un animal impur puisque vous échappez du coup là au sacrifice. Alors, donc, vous avez cet ordre avec l'exécution et avec cette idée qu'il y a une opposition évidemment. Entre l'annonce que Yahvé va effacer ce qui existe sur le sol et l'annonce qu'il faut garder en vie une semence. Donc c'est toujours cette ambiguïté. D'un côté, Yahvé va tout effacer, mais en même temps, via Noé et les animaux, il va en effet garder en vie une semence. Donc c'est un texte qui est en partie ancien. Tout ce que je vous ai mis en rouge, ça c'est ajouté par le rédacteur qui a fait le lien. Qui a dit que Noé est juste, alors que dans le texte non-paix, il était seulement celui qui avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Les volatiles, il n'y a pas besoin de le préciser. Et puis, on ne trouve pas le même vocabulaire, mâle et femelle, on trouve le vocabulaire normal et pas ish ve ishta, donc ishto, un homme et sa femme. Et donc aussi leur reprise, Noé fit selon ce qu'il avait lui ordonné. Donc vous enlevez ça, le rouge, et vous avez le récit le plus ancien. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord l'ordre d'entrer dans l'arche. Parce qu'on dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Est-ce que vous voyez une différence ? Ton P, c'est Noé entre dans l'arche, avec qui ? Avec ses fils, les femmes des fils et sa propre femme. Et toute ta maison, en hébreu, ça peut être plus large. Ça peut être les esclaves, ça peut être l'oncle, la tante, la grand-mère. Ça peut être beaucoup de monde. Et en effet, si vous prenez les récits mésopotamiens, il y a plus de monde. Atrahasis embarque sa famille, sa parenté, des maîtres artisans aussi pour reconstruire après la catastrophe. Et Utnapishtim, c'est très matériel d'ailleurs, Utnapishtim raconte à Gilgamesh ce qu'il a amené, tout ce que j'avais d'argent, je l'en chargeais, tout ce que j'avais d'or, je l'en chargeais, tout ce que j'avais comme être vivant, je l'en chargeais. Je fis monter sur le bateau les parents et les familles, les animaux domestiques et sauvages, les artisans de tous les métiers, je les ai fis monter. Donc là, il y a beaucoup plus de monde dans l'arche. Donc on peut imaginer que dans le récit ancien, Nompé, toute ta maison, ce n'était pas limité en fait aux fils et aux belles-filles et à la femme. Hein? Et donc la différenciation des animaux, je vous ai déjà dit, cette différenciation entre pur et impur permet en effet d'expliquer comment on peut faire le sacrifice, pourquoi 7 et 40, on va le retrouver, c'est des chiffres évidemment très, très fréquents dans le texte biblique. Alors on peut dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ça va être un texte plus récent que paix, parce qu'il parle de pur et impur. Parce que pur et impur, c'est une obsession des prêtres. Oui, mais on le trouve un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme technique pour impur, tamé, n'est pas utilisé. On dit simplement non pur, lotaror. Hein, donc ce n'est pas le vocabulaire sacerdotal. Et donc, du coup, on reprend le 7 et le 40, encore 7 jours. Je vais faire pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'affaissera tous les êtres que je fais sur la surface du sol. Alors pourquoi encore il faut attendre 7 jours encore ? Parce qu'il est déjà entré. Pourquoi 7 jours ? Alors ça, c'est compliqué aussi. En fait, en Atrahasis, le déluge n'a duré que 7 jours. Puisque Enki annonce à Atrahasis, il lui annonce, selon la traduction de Nathan Wasserman, il lui annonce le venir du déluge, c'est 7 jours. Alors, est-ce que ça a inspiré par Atrahasis ? C'est possible. Hein ? Ou alors, chez Gilgamesh et Utapishtim, il y a 7 jours où l'arche traîne sur le mont Nimush jusqu'à ce que Noé se décide à laisser sortir la colombe. Hein? Donc il y a peut-être un reflet de ça. Hein? Et puis le 40, bah, vous avez le 40 un peu partout, les 40 dans les déserts, les 40 jours de Moïse sur le Sinaï, les 40 jours d'Élie, dans le Nouveau Testament, les 40 jours de Jésus dans le désert, etc. Donc si on ne sait pas trop, 40 ans pour la durée de règne de David, de Salomon, quand vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez 40. Souvent, pas toujours, mais souvent. Et donc, du coup, ça m'amène un peu à vous montrer qu'il y a, ça c'est pour les mathématiciens, qu'il y a deux calculs assez différents dans les deux récits du déluge. Hein? Dans le récit Nompé, donc on a 7 jours depuis l'entrée dans l'arche jusqu'au début des pluies. Après, il y a des pluies qui durent 40 jours et 40 nuits. Et après, il y a encore une fois 7 jours et 7 jours, parce que vous vous souvenez, il fait sortir la colombe la première fois. Le corbeau, on ne sait pas ce qu'il va faire là, mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc la colombe sort, en fait, une fois, on attend 7 fois, et 7 jours, il ressort encore une fois 7 jours, et puis après, il ne revient plus. Donc du coup, jusqu'à la sortie de l'arche, on a donc 7, 47, 7 et 7. Donc 61, si j'ai bien calculé. Donc pourquoi 61 ? Je ne sais pas. Et le récipé, c'est beaucoup plus long. Là, le début du déluge, ça se situe en l'an 600 de Noé, le 17-2. Et la fin du déluge, c'est donc la fin du déluge proprement dit, c'est le 7e mois, c'est le 17-7, ça dure 5 mois en fait. Ça dure 5 mois. Mais curieusement, Noé ne sort pas tout de suite de l'arche. Hein, parce que dans l'an 601, le premier du premier, jour de l'an, il y a la visibilité de la terre ferme. Et puis l'an 601, le 27 du 2, c'est la sortie de l'arche. Donc ça veut dire qu'il se passe un an et 10 jours entre l'entrée dans l'arche et la sortie de l'arche. On reviendra là-dessus. C'est des calculs. Apparemment, vous vous souvenez, on a vu avec les jubilés déjà qu'il y a toute une sorte de calcul, de calendrier qui apparemment, à partir du IIIe siècle, a commencé à fasciner le judaïsme, où il y avait cette opposition entre calendrier lunaire, calendrier solaire, et je pense qu'on retrouve ça un tout peu derrière ces textes sacerdotaux. Alors, une différence peut-être qu'il faut signaler, qui est important entre le récit non-P et le récit P, je vous ai dit, on parle de Maboul, le déluge. Et comme on imagine, le déluge, ben on va le voir tout de suite, c'est les eaux primordiales qui reviennent sur la terre, d'en haut et d'en bas. Hein? Et chez le récit non-P, c'est simplement des pluies abondantes. Il n'y a pas de terme de déluge, donc c'est l'extermination du monde par des pluies qui ne s'arrêtent pas. Hein? Donc, si on suit l'histoire, tout d'un coup, on trouve quelque chose d'encore très bizarre, puisque dans les versets 8 à 9, on apprend que du bétail qui n'est pas pur et que du bétail qui est des animaux qui sont purs, il n'y a qu'un seul couple, ce qui ne correspond pas du tout ni au récit P, ni au récit non P. Donc là, tout le monde est distingué entre pur et impur, mais tout à coup, il n'y a qu'un seul couple. Et pourquoi ? Sans doute parce qu'on voulait, en effet, on s'est dit, bon, il y a ceux qui parlent de pur et impur, il y a ceux qui parlent d'un seul couple, comment on va harmoniser ça ? Bon, il y a des purs et des impurs, mais il y a un couple pour tout le monde. Hein ? Et donc ça montre en fait comment à l'intérieur du récit, vous avez en effet des traces de ces révisions. Hein ? Alors, revenons à la question de la durée du déluge, 1 an et 10 jours. Alors, si on prend une année lunaire, on arrive à 354 jours, et si on rajoute 10 ou 11 selon si on prend le premier jusqu'au dixième jour les deux, ben vous arrivez en effet à 364 ou 365. Hein ? Ça vous fait à la fois l'année lunaire et l'année solaire. Donc peut-être cette sorte de tentative d'harmoniser un peu les deux calendriers, en admettant un calendrier lunaire qui va s'imposer dans le judaïsme, et avec les 10 jours, on rajoute en effet un calendrier solaire. La Septante a daté un peu différemment pour arriver à une seule année, puisque les deux choses se passent le 27-2-600, le 27-2-601, donc ça fait une année précise, mais alors à quelle année est-ce qu'on a pensé ? Ça, c'est difficile. Hein ? Lunaire, solaire, on ne le dit pas. Et puis, on retrouve encore après cet ajout donc des 150 jours. C'est peut-être ni P ni non P, c'est un rédacteur qui a fait un calcul savant en disant, bon, si ça dure 5 mois, si je prends un mois de 30 jours, ça me fait 150 jours, probablement. Mais ça, c'est, je pense, une sorte de glose. Mais l'autre question qu'on peut se poser, et que je vous soumets aussi, peut-être vous avez d'autres idées, pourquoi le déluge commence le 17 au 2, le 17 du deuxième mois ? Oui, c'est compliqué. Et puis, on ne nous donne pas d'informations. On ne nous donne pas d'informations. Hein ? Alors après, on ne peut que spéculer. Si on admet, mais le texte ne le dit pas, si on disait qu'il y avait 40 jours pour la construction de l'arche, plus 7 jours entre la construction et le début du déluge, hein, on aura en fait donc 47 jours, et avec un mois à 30 jours, on sera en effet au 17 du deuxième jour. Vous suivez ? Bon, mais c'est une hypothèse qui se base sur peu de choses. Donc on peut simplement se baser sur le 40 et 7, qui sont des chiffres, comme on l'a vu, assez fréquents. Hein. Mais il y a peut-être aussi une sorte de tentative de mettre cette date en lien avec la fête du Nouvel An, puisque on trouve dans Gilgamesh cette indication, quand on a fini de travailler, on fait une fête comme le jour de l'an. Et il y a des assyriologues qui pensent qu'on aura récité le récit du déluge lors de l'Akitu, lors de la fête du Nouvel An. Alors si c'est vrai, mais là aussi je pense qu'ils ne savent pas totalement si c'est vrai, si c'est vrai, ben, on aura pu penser, en effet, il y a des calculs qui insistent en fait sur le jour de l'an. D'ailleurs, comme je vous le montrais tout à l'heure, le jour de l'an, c'est en effet là où la terre devient sèche. Donc, comme je vous ai dit, pour le récit sacerdotal, les eaux, en fait, vont revenir, les écluses du ciel vont s'ouvrir. Comment faut imaginer là, les écluses du ciel? On n'a pas entendu parler des écluses du ciel quand on a regardé l'histoire de la création du monde. Donc, on a ce terme « aruvot » qui n'est pas très fréquent, mais on le trouve par exemple en Ésaïe 24, où on parle des écluses d'en haut qui vont s'ouvrir et les fondements de la terre qui vont être ébranlés. Donc, il faut imaginer, vous souvenez du récit de la création, on a le firmament, le ciel, qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Hein? Et après vient la terre sèche qui met les eaux d'en bas encore plus bas. Hein? Et ce qui se passe selon les déluges, c'est le Théom qui était là avant la création, ben, il reprend possession de la création en venant d'en haut par les écluses du ciel. Donc il faut imaginer que le ciel, une sorte de firmament, a des ouvertures que Dieu ouvre et à partir desquelles en fait, les eaux reviennent sur la terre et les sources souterraines vont en effet jaillir, vont se fondre pour venir en haut. Parce que la racine baka, séparer, fendre, est aussi utilisée, si vous vous souvenez, en Genèse 1, mais pour mettre justement en place la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, l'arrivée de la terre sèche, ici c'est utilisé dans l'autre sens, à savoir en fait que c'est une sorte de décréation. La terre est en effet envahie de nouveau par l'eau aquatique primordiale qui était là et qui, pour paix, en effet, revient. Hein, revient par le haut et par le bas. Hein. Donc cette idée qu'il y a des sortes d'écluses ou de fenêtres, on le trouve aussi dans le mythe Baal à Ugarit, lorsqu'il obtient la construction de son palais céleste. Hein, on va en effet raconter que pour faire venir le tonnerre, il ouvre aussi les fenêtres de son palais. Ensuite vient la fermeture de l'arche. Donc le récit sacerdotal va jusqu'au verset 16a, comme Dieu l'avait ordonné. Et puis le récit ancien rajoute, ou disons, on rajoute en combinant avec les récits anciens, Yahvé ferma derrière lui. Alors, dans les récits d'Atrahasis et Utnapishtim, c'est le héros lui-même qui ferme. Vous avez les textes ici, hein, mais dans le récit biblique, c'est Yahvé lui-même. Donc, c'est toujours encore un Yahvé très anthropomorphe, comme celui qui se promène dans le jardin. Et là, il est derrière, il ferme la porte pour que les choses peuvent, en effet, démarrer. Et c'est ce qui est raconté au chapitre.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.